Alors, bonjour tout le monde. Je voulais juste dire que voilà, mon précieux mari est en train de me soutenir, que nous avons deux magnifiques filles de 29 et 25 ans et un magnifique costaud petit-fils de 7 mois qui fait 12 kilos. Donc, on n'est pas peu fiers, hein? C'est la vie et ça fait partie de la multiplication. Voilà. En fait, hier, on a partagé un petit peu de notre parcours et j'ai expliqué que j'ai rencontré Jésus alors que j'étais en train de faire mes études de médecine en deuxième année. Je viens d'un arrière-plan pas du tout chrétien, je ne connaissais rien du tout à tout ça. Et que je suis partie en mission après avoir terminé mes études de médecine à l'âge de 25 ans. Et depuis, ben, j'ai le privilège vraiment avec Jean-Marc et ma famille de servir Jésus dans les nations. Alors, un de mes versets, je ne peux pas dire un verset favori parce qu'on ne devrait pas avoir de verset favori, hein, mais un des versets que j'aime toujours citer, et je crois que vous allez bien m'aider là-bas, parce que je n'ai pas de manette. Donc, c'est la première diapositive. C'est Matthieu 28, verset 20. Ah, c'est super, parce qu'en fait, je vois en plus là. La technique à la clé, c'est parfait. Voilà. En fait, je n'arrive pas à lire, mais je vois. Alors, ce verset, vous le connaissez tous. Vous pouvez le citer par cœur. C'est la dernière parole de Jésus avant de quitter cette terre. La dernière parole de notre Seigneur. Je ne sais pas, mais quand quelqu'un s'apprête à quitter ce monde, on est vraiment attentif à ce qu'il nous dit. Hein. Et donc, cette parole de Jésus, pendant 5 minutes, on va essayer d'être vraiment attentif à ce qu'il nous dit. Et j'aimerais vous demander de vous mettre par groupe de 3, on ne va pas faire ça longtemps, mais par groupe de 3, quelqu'un que je connais bien a l'habitude de dire le commandement de Jésus le moins obéi, c'est Matthieu 28. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'en pensez-vous? Je ne veux pas que vous me disiez la réponse, mais juste discuter par groupe de 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec ça? Matthieu 28, est-ce le commandement le moins obéi de Jésus? Pouvez-vous vous mettre juste par groupe de 3 et en discuter? Et pensez à votre vie. Est-ce le commandement de Jésus auquel vous obéissez le plus? Donc il est là, hein? Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible, tout est là. Ok? Dans ce verset, il y a à peu près... Il y a quatre ordres. Allez, hein? Allez et faites des disciples. En fait, je peux clore les conversations, merci. Voilà, donc dans ce verset, Jésus nous dit, allez, faites des disciples. En fait, dans le grec, il est dit, tout en allant, faites des disciples. Donc, ce n'est pas juste le fait d'aller, mais c'est de faire des disciples tout en allant. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est bien au taquet là, pour l'obéissance dans ce verset? Bon, laissons notre cœur être examiné, hein, par le Saint-Esprit. Mais franchement, ce n'est pas un des versets que l'on met le plus en pratique. Je me rappelle quand j'étais jeune, peut-être certains se rappellent, il y avait un chanteur qui était très célèbre qui s'appelait Keith Green, qui a écrit des magnifiques chansons et qui est mort assez jeune dans un accident d'avion. Et je me rappelle avoir vu un de ses concerts où il disait, c'était très puissant, il disait, si vous n'avez pas entendu Jésus qui vous dit de rester, ben, vous devez aller. Waouh! En fait, il y avait une telle onction quand il disait ça qu'on avait juste envie de partir. On a vraiment un problème, en fait, Église, pour obéir à ce dernier commandement de Jésus, à ce qu'on appelle le grand mandat. Et on va passer à la diapositive suivante. Je vais juste citer un prédicateur, enfin, un homme de Dieu très célèbre qui s'appelle Rick Warren. Peut-être vous connaissez, vous avez lu ses livres. Il dit « Beaucoup d'églises ont abandonné ce focus de la mission globale pour un focus très local, un genre de localisme. Quand devriez-vous avoir une vision globale ?» Et la réponse de Rick Warren, c'est « avant que vous n'implantiez l'église ». Vous me suivez, hein? Voilà, on devrait avoir cette vision globale, de la mission globale dans toutes les nations de la terre, parce que c'est là où Jésus veut nous envoyer, avant même que vous n'implantiez une église. C'est-à-dire que ça doit faire partie de l'ADN de n'importe quelle implantation d'église. Et c'est ce qu'on a expérimenté à Madagascar, et ça a amené une multiplication d'églises. En quelques années, il y a une centaine d'églises qui n'arrêtent pas de se multiplier. Parce que dès le démarrage, il y avait cet ADN de la vision globale. Alors, on peut parler de globalisation ou de, je ne crois pas que le mot existe, de glocalisation. Sommes-nous une église avec une vision globale ou une vision locale? Glocalisation, ça fait un peu glauque. Donc. Mais soyons une église globale. Alors, j'ai entendu que dans l'église clé, on aimerait avoir un département missionnaire. Et c'est sûr qu'en tant que missionnaire, je ne peux que me réjouir d'entendre des choses comme ça. Mais vous savez, un département missionnaire dans une église, ça peut être, je ne sais pas si l'image est bonne, mais ça pourrait être un grain de beauté ou une verrue, ou ça peut être vraiment l'ADN de l'église. Donc, on ne voudrait pas que un département missionnaire, ça soit juste une petite excroissance de l'Église, mais que ça devienne vraiment part de l'ADN de l'Église. Parce qu'un cœur missionnel, un cœur qui va, il n'est pas juste allumé un week-end par mois. Je ne sais pas si vous avez de façon régulière des cultes des nations, comme aujourd'hui, mais un cœur missionnel, ce n'est pas juste une fois par mois. Un cœur missionnel, c'est un cœur qui va voir chaque interaction avec des gens, chaque relation, comme une opportunité d'amener le royaume dans la vie des gens. Et pour ça, on a vraiment un rôle unique, chacun, à jouer dans le plan de Dieu pour notre génération, dans notre génération. Et j'aime tellement à penser, avec des milliers de gens, des millions de gens dans le monde, qu'aujourd'hui, en 2017, on peut travailler tous ensemble à hâter le retour du Seigneur. Et dans le monde, en ce moment, il y a un mouvement de chrétiens qui ont décidé, on peut hâter ensemble. Ensemble, on ne peut pas le faire seul, Église clé, hein, mais tous ensemble, corps de Christ, on peut hâter le retour du Seigneur. Et il y en a qui rêvent, et j'en fais partie avec Jean-Marc, que d'ici 2025 ou 2030, le retour du Seigneur est possible dans notre génération. Mais on a besoin de travailler tous ensemble pour ça. Matthieu 24, 34 dit « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » C'est clair. On peut se demander quand est-ce va venir le retour de Jésus. Moi, je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a deux versets qui parlent de ça. Toutes les nations de la terre vont entendre l'évangile avant. On a donc une énorme, énorme, énorme responsabilité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je ne sais pas, dans des cours de formation que vous avez ici, étudiez quel est l'objectif, quel est le plan de Dieu de la Genèse jusqu'à la fin des temps et comprenez quel est votre rôle dans ce grand plan. C'est extraordinaire, mais je suis pas là, je voulais pas parler de ça ce matin. Mais la tâche restante, parce que si Jésus nous dit « allez », on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais on a encore du travail. Donc, la tâche restante, c'est 3000 peuples non atteints, non engagés. Alors là, c'est des termes un peu de missionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire un peuple non atteint? C'est-à-dire un peuple, il n'y a pas encore d'église parmi eux. Aucune. Non engagée, ça veut dire qu'il n'y a aucun témoignage chrétien parmi ces gens. Personne qui est encore allé. Et 7000 peuples non atteints. Là, il y a des gens qui commencent à y travailler, mais il n'y a pas d'église. Et donc, parmi ces gens, il y a à peu près 2650 groupes ethniques musulmans et qui représentent 85% des 1,3 milliard de musulmans dans le monde. 40% des personnes non atteintes de la planète. Donc, on a encore un grand boulot. Parce que parmi ces peuples, il y en a qui sont très, très grands, hein, comme au Pakistan, en Inde, ça représente des populations énormes. Et certains de ces gens, ils sont là, à Montpellier, au milieu de nous. Et il y a des mouvements parmi les étudiants dans certaines nations, dont aux États-Unis, et je crois qu'ici, il y a pas mal d'étudiants, qui se mettent ensemble, qui réfléchissent à plusieurs églises, comment toucher les peuples non atteints dans notre ville, parmi les étudiants. Et ces jeunes qui sont complètement déterminés à hâter le retour de Jésus à l'université, ils commencent à apprendre la langue chinoise, la langue de pays complètement inconnus, hein, des langues d'Iran, des langues du Pakistan. Et ils voient des personnes qui rencontrent Jésus dans l'université et qui démarrent des mouvements de multiplication de disciples dans leur pays. Donc, ce n'est pas si difficile, ce n'est pas impossible. Hein? On a une tâche avec Jésus qui nous accompagne pour l'accomplir. Qu'est-ce qui nous empêche de voir ces peuples atteints et de voir des mouvements de multiplication de disciples parmi eux? De voir finalement la mise en œuvre de Matthieu 24 et de Matthieu 28. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont contrôlables, qui peuvent nous empêcher. Le manque de vision, et j'espère que aujourd'hui, et si vous écoutez aussi peut-être le message d'hier, ça peut contribuer à vous communiquer une vision. Ça peut être aussi le manque d'effort, le manque de méthodes non reproduisibles. Parce que si on veut voir une multiplication, il faut avoir des outils qui sont faciles à multiplier. Ça peut être aussi une dispersion dans nos activités. Et on est tellement sollicité dans notre culture par des quantités de propositions, d'activités, de formations. Et si on veut voir des peuples non atteints être touchés et vraiment voir des mouvements parmi eux, on va devoir faire de grands choix. Des choix radicaux dans nos vies, des choix sélectifs, et enfin, un choix c'est toujours sélectif. En fait, on va devoir rentrer vraiment dans de l'obéissance. Et les gens qui voient des mouvements, ce sont des gens qui ont éliminé beaucoup d'autres choses dans leur vie. Des sacrifices aussi financiers. En fait, on va devoir entrer dans l'obéissance. Mais le plus grand obstacle, et c'est ça, je vais me reparler ce matin. Le plus grand obstacle, c'est le manque de foi. Que Dieu va commencer un mouvement à un endroit, en ce moment, et au travers de moi. Et j'ai pris le texte de Matthieu 17, qui décrit un contraste frappant entre ce qui est possible avec Dieu et ce qui n'est pas possible sans lui. En haut de la montagne, Matthieu 17, c'est l'histoire de la transfiguration. Et Jésus va monter en haut de la montagne avec trois de ses disciples. Vous connaissez tous cette histoire. Pierre, Jacques et Jean, ils ont accompagné Jésus au sommet de la montagne de la transfiguration. Et là, ils ont devant leurs yeux la gloire incarnée de Jésus. Et une voix du ciel se fait entendre et elle dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Dans une telle atmosphère, rien de ce que le Fils de Dieu pouvait dire à ses disciples aurait semblé impossible. On n'aurait jamais pu mettre en doute ce que Jésus disait dans une telle atmosphère. Et dans une telle atmosphère, en haut de la montagne, aucune mission est impossible. Aucun obstacle est trop grand. Aucun ennemi ne vous paraît inflexible.
Tout est possible.
La vie au sommet de la montagne, elle est belle, elle est bonne, elle est extraordinaire. Et remis dans un contexte missionnaire, dans le contexte de la vision missionnaire, au sommet de la montagne, la mission, elle est claire. Et vous pensez que la mission du Fils de Dieu, elle ne peut pas s'arrêter. Que faire des disciples qui vont se multiplier une génération après l'autre, c'est possible. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Il y a une grande moisson pour tous les peuples. Et quand vous êtes au sommet de la montagne, vous voyez tous ces peuples. Ouais. Et vous dites, les promesses sont certaines, on va y arriver. Les promesses de Dieu sont si grandes, si nombreuses, que rien ne vous semble impossible. La puissance de Dieu, elle est infinie, elle est illimitée quand vous êtes au sommet de la montagne. Le ciel est ouvert. Vous avez vécu ces moments ? Ouais. Et là, on est touché, on est bouleversé, même ce matin. Hein ? On était touché, on était bouleversé. Et en haut de la montagne, beaucoup d'entre nous, j'en fais partie, on dit oui. Oui, Jésus, je veux te servir, je veux aller jusqu'où tu veux. Et je veux aller partout, je veux voir cette multitude. Qui a déjà entendu Dieu lui parler comme ça, en haut de la montagne? Et qui a déjà entendu Dieu lui parler pour les nations, en haut de la montagne? Ouais, il y en a quelques-uns. Le problème, c'est que les disciples, et tous les disciples, et ça m'est arrivé aussi, on doit descendre de la montagne. Et on va descendre de la montagne vers le reste du monde, un endroit où là, les réalités vont être en concurrence, brouillent les messages et affaiblissent notre foi. En bas de la montagne, c'est une image que j'ai prise du film Jésus, si vous connaissez, on ne voit pas trop bien, mais en bas de la montagne, il y a 9 autres disciples qui sont en train de se battre contre une autre réalité. C'est la réalité de l'écrasante servitude du malin. Et en vain, ces disciples, ils avaient dépensé beaucoup d'efforts pour chasser un démon d'un jeune homme. Et pourtant, ces disciples, ils avaient déjà été mandatés par Jésus pour chasser des démons. Et ils avaient déjà expérimenté de grandes choses. Mais apparemment, dans Matthieu 17, ils font face à une puissance démoniaque qui est au-delà de leur expérience et de leur foi. Alors, moi, je peux imaginer, pour avoir assisté des fois à des scènes comme ça, pour avoir assisté à des scènes comme ça, que les 9, ils devaient être en train de crier de plus en plus fort pour chasser ce démon. Et peu importe ce qu'ils faisaient, mais ça ne marchait pas. Et de la même manière, quand vous voulez partir, quand vous voulez obéir à cet ordre de Jésus, allez même rien que dans la ville de Montpellier. Hein. Quand vous voulez aller peut-être un peu plus loin, quand vous voulez vous engager dans la mission et à servir Jésus pour faire avancer son royaume, vous allez faire face à des forteresses qui vont défier votre expérience et être au-delà de votre foi. Et on met beaucoup de force à essayer de pousser ces murs, mais ils résistent. Et finalement, on a l'impression qu'on ne rentre jamais ou si rarement dans ce que Dieu nous dit sur la montagne. Vous avez eu déjà ce sentiment ? Ouais. Mais dans Matthieu 17, Jésus entre soudainement dans la confrontation. Et il y a donc Jésus descend de la montagne avec ses disciples, et il y a un père qui se jette à ses genoux et qui dit, qui le supplie pour la délivrance de son fils. Et les paroles de Jésus, elles sont vraiment choquantes. Jésus dit, génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Et j'ai regardé dans le sens de ces mots, incrédule et perverse, en grec. Incrédule, c'est sans foi, sans confiance en Dieu. Et perverse, bien très faux, ça veut dire se détourner du droit chemin, pervertir, corrompre, opposer au plan de Dieu. J'ai réfléchi, en fait, mais Jésus, tu utilises des mots mais vraiment, vraiment forts. Parce que le mot pervers, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un mot qu'on utilise pour des péchés horribles. C'est pas parce que quelqu'un commence à se détourner du droit chemin, comme on dit souvent chez nous, il est dans le péché, qu'on va utiliser ce mot. C'est pas parce qu'un homme va coucher avec une femme qui n'est pas sa femme qu'on va dire que c'est pervers. En général, on dit qu'il est dans le péché. Par contre, si un homme se met à coucher avec des enfants ou avec des animaux, là, on dit que c'est la perversion. Mais parler de perversion alors qu'on n'arrive pas à chasser un démon, c'est quand même costaud quoi, ce que Jésus disait. Hein. Et les paroles de Jésus, quand je les ai lues, elles me semblaient mais tellement, tellement dures. Et elles sont tellement dures, c'est vrai ces paroles, jusqu'à ce qu'on réalise la profondeur du mensonge que Jésus est en train de défier et qu'il veut défier en nous. En haut de la montagne, il n'y a aucun doute sur la puissance de Jésus. Et ce matin, quand on a loué Jésus, je ne pense pas qu'il y avait des doutes dans nos cœurs. Hein. On le loue pour sa puissance, pour sa déité, pour sa gloire. Tout est clair quand on est sur la montagne. En bas de la montagne, et on descend de la montagne tous les jours, il y a un mensonge millénaire qui continue sa marche. Et qu'est-ce qui est plus perverti ou plus corrompu que de dire que l'ennemi créé par Dieu Tout-Puissant a plus de puissance pour tenir un enfant captif dans l'esclavage que le Dieu Tout-Puissant de le libérer. Le père y croyait ce mensonge, que son enfant allait être prisonnier toute la vie. Et les neuf aussi, les neuf disciples, ils ont succombé à ce mensonge. Et cette pensée corrompue, elle est très, très contagieuse dans l'Église quand il s'agit de la mission. Donc là, je remets tout dans le contexte de la mission, le contexte de l'expansion du royaume, le contexte de la libération de nombreux captifs. Parce que là, en dehors, dans notre monde, les gens sont prisonniers. Et Jésus met son onction sur nous pour libérer les captifs. Mais on a des pensées, je le dis comme Jésus, perverses, des pensées corrompues. Je peux le dire parce qu'elles sont chez moi aussi. Aujourd'hui, devant la mission que Jésus nous confie, les ouvriers du royaume, donc nous, on fait face à trois pensées corrompues. Et ces pensées sont très simples. Pas ici. Souvent, le plus je voyage dans les différents continents, et on va dans beaucoup de pays avec Jean-Marc, le plus je suis convaincue de cette réalité. Les missionnaires, les implanteurs d'églises, ils pensent que là où ils sont, leur défi, il est unique. C'est l'endroit le plus difficile du monde. Tout le monde, tu vas n'importe quel pays, les gens ils nous disent ça. Là où on est, c'est l'endroit le plus difficile du monde. Vous ne comprenez pas notre réalité. Et les gens s'engagent dans une gymnastique impressionnante pour vous expliquer pourquoi là où on est, c'est l'endroit le plus difficile du monde. Ça vous est arrivé à Montpellier? Ouais? Non, peut-être pas, mais... Et dire... C'est le plus difficile ici, non. Dire que mon groupe, dire que ma ville, dire que l'endroit où je travaille, c'est le plus dur du monde, ou le plus dur de la France, c'est comme si je dis à Dieu que cet endroit, ce peuple, il est trop dur pour toi. Et c'est prendre l'ordre divin à l'envers. Donc si je le prends à l'envers, je le corromps, hein, je le pervertis, parce que pervertir, ça veut dire tourner à l'envers. Donc je suis dans une pensée pervertie, et de telles pensées, elles s'envolent quand je pense aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu que j'ai eues sur la montagne, hein, c'est que devant son trône, il va y avoir une multitude de peuples, de toutes langues, de toutes nations, de toutes couleurs. Et hier, j'ai expliqué qu'il y a quelques années, enfin de nombreuses années en arrière, mais le Seigneur m'a envoyé travailler dans un peuple où il n'y avait à l'époque qu'un seul chrétien qui était en prison. Et aujourd'hui, je suis allée là-bas, c'était dans le désert. Et combien de fois je montais sur la montagne, mais je travaillais aussi dans le désert en me disant, je sais, Jésus, tu me l'as promis, ça va se passer. Il va y avoir un peuple, des multitudes de ce peuple devant ton trône. Aujourd'hui, il y en a déjà, hein, presque 4000. Mais c'est possible, et c'était ici, dans cet endroit même. Donc, ça, c'est une pensée corrompue, pas ici. Une autre pensée corrompue, pas maintenant. Certains, ils sont bien d'accord que Dieu veut une grande moisson dans leur ville, dans leur pays, dans leur peuple, peut-être même un mouvement. Mais le mensonge qu'ils croient, la pensée corrompue, c'est que ça va se passer à un certain moment, dans le futur, et pas maintenant. Maintenant, toutes les conditions ne sont pas réunies. Waouh, ça, on l'entend souvent. Et ils disent que les barrières dans cet endroit, elles sont trop grandes pour qu'il y ait maintenant des convictions du Saint-Esprit. Peut-être dans une autre génération. En France, on a un défi. Hein. Et combien de fois on entend ça? Pas maintenant. Hier, en Afrique du Sud, c'est un endroit où on a habité pendant un an, 2 ans, donc on a beaucoup d'amis là-bas. En Afrique du Sud, il y avait un rassemblement de chrétiens qui sont tous venus au même endroit pour intercéder pour la nation, quasi 3 millions de personnes, dans des champs à perte de vue. Ils viennent pour intercéder pour leur nation qui est en ce moment dans de grandes difficultés économiques. Et ils s'attendent vraiment à ce que Dieu intervienne dans leur nation. Ils ont besoin. On verra ces choses-là aussi, hein? Et on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Une telle logique, quand on dit « pas maintenant », elle s'évanouit devant les promesses de Dieu. Jésus, il l'a dit, la moisson, vous dites qu'il y a 4 mois avant la moisson. Hein? Qu'est-ce que moi je dis? C'est maintenant. Un autre mensonge, c'est pas au travers de moi. Certains sont convaincus que c'est le temps de Dieu, que c'est maintenant, mais ça ne peut pas se passer au travers de moi. Ça va se passer au travers de ce grand apôtre, de ce grand évangéliste, mais pas au travers de moi. Si on est dans une pensée comme ça, on a une pensée pervertie aussi, une pensée corrompue. Imagine Jésus qui accorde autant de valeur à 2 petites pièces, une veuve mais dans le tronc, ça a plus de valeur que tout le superflu que les autres donnent, alors ce Dieu-là, il peut nous utiliser. Et Dieu est un Père incroyable, un Père merveilleux qui sait ce que vous pouvez supporter et il veut agir au travers de nous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de pensée, de vous dire « pas ici, pas maintenant, pas au travers de moi ». Moi, ça m'est arrivé. Hein. Mais au pied de la montagne, la réalité spirituelle d'en haut, elle devient souvent plus obscure. Et le contraste, il est fort entre le haut et le bas de la montagne. Et Jésus, il souligne encore plus ce contraste. Je crois que je l'ai écrit, le verset suivant. Ce qu'il fait, la diapositive suivante. Ouais. C'est une histoire incroyable. Jésus, il commanda avec sévérité au démon de sortir et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Quand Jésus fait les choses, il dit immédiatement, il démontre par cette solution combien est pervertie la pensée des disciples. Et en privé, les disciples vont demander à Jésus pourquoi ils ne sont pas arrivés à chasser ce démon. Et Jésus leur explique parce que vous avez peu de foi. Si votre foi était comme celle d'un grain de moutarde, c'est minuscule, vous diriez à cette montagne de se déplacer. Et elle se déplacerait. Et on fait tous face à ce problème, le peu de foi. Ouais, vous reconnaissez dans le peu de foi. Et le problème principal, c'est notre manque de compréhension de ce qu'est la foi. Parfois, on pense que... Ouais, je sentais vraiment que ici, en fait, le Seigneur veut vraiment nous encourager à devenir des hommes et des femmes de foi et qu'on ait besoin peut-être de rectifier notre pensée. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et la foi, je peux passer à la diapositive suivante. Merci. La foi, c'est pas la force comme dans Star Wars. C'est pas la force de la guerre des étoiles. Il y a beaucoup de disciples qui pensent que s'ils croient simplement de plus en plus fort, qui ressentent de plus en plus profondément, certains qui croient que s'ils parlent même de plus en plus fort et qui répètent les bonnes paroles, le problème va être résolu. Vous reconnaissez parfois ce processus ? Ça, ce n'est pas la foi. C'est la force, de la, ou bien ça peut être même de la magie blanche. Hein ? La foi, ce n'est pas manipuler Dieu. Certains pensent que s'ils prient avec de plus en plus de ferveur, ils vont pouvoir forcer le bras de Dieu pour que Dieu intervienne pour faire quelque chose qu'il n'a pas l'intention de faire. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la manipulation. La foi, ce n'est pas la présomption. Dans Nombre 14, on voit quelques enfants d'Israël qui ont présumé qui pouvaient proclamer les promesses de Dieu sans remplir les conditions. Et les conséquences ont été dramatiques. Donc, ça s'appelle la présomption. On a tous entendu des définitions différentes de la foi. Je suis sûre que si vous avez fait des cours bibliques, vous avez eu une session sur la foi. Mais j'ai réalisé dans son essence que la foi, elle peut être définie par un simple mot. Ce mot, c'est repos. Repos. Repos, peut-être après. La foi, c'est la tranquille assurance que notre Père céleste va faire ce qu'il a promis. Amen. Hein? Et repensons à Matthieu 28. Il va faire ce qu'il a promis. C'est-à-dire que quand on va aller, il a promis, il est avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, j'ai eu des parents, et en fait, ils sont toujours en vie, mais des parents, qui n'ont jamais écouté. Donc, chaque fois que j'ai eu un fardeau, chaque fois que j'ai eu une grande peine, je n'ai jamais pu être entendue parce que c'est des personnes qui ne supportaient pas entendre un problème. Et ils sont toujours comme ça, d'ailleurs. Et même au point que mon père, maintenant, en fait, si dans une conversation, s'il est pas si c'est pas lui qui parle, il va couper le son. Notre Dieu, mon Père céleste, il est tellement différent. Il entend même les petits soupirs de mon cœur. Je me rappelle quand on vivait au Sénégal. Et j'étais enceinte de ma deuxième, qui est née au Sénégal. Et à l'époque, on ne trouvait vraiment pas beaucoup de choses dans le pays. Et enceinte, je disais un jour à Jean-Marc, « Ah, vous savez, on a des fois des envies, mais des envies, vous ne pouvez pas les satisfaire. Hein. » Et moi, j'aime beaucoup le jambon de pays. Et dans un pays musulman, impossible de trouver la charcuterie. Hein. Mais je disais à Jean, ah, j'aimerais un jambon de pie. Bon, mais on dit ça comme ça. Et le Père entend tous nos soupirs. Une histoire incroyable, parce que 2 semaines plus tard, on reçoit un colis, on en recevait vraiment très, très rarement. Et dans ce colis, il y avait un énorme morceau de jambon de pays. Vous ne pouvez pas imaginer combien on a pleuré. Et c'était une vieille dame dans notre église qui, un jour, dans le culte, elle pensait à nous et le Seigneur lui a simplement dit « Envoie un jambon ». Et c'est la seule fois, je pense, qu'elle a envoyé un colis à des missionnaires. Mais je dis ça parce que notre Dieu, ouais, on peut être dans des endroits difficiles, mais il est un père. Hein? En fait, vraiment, notre grand problème, c'est qu'on sous-estime justement notre Père céleste et ce qu'il est. Et on ne comprend pas son cœur. Quand Jésus il a présenté la solution à ses disciples, il leur a dit qu'ils avaient juste besoin de la foi comme un grain de moutarde pour déplacer les montagnes. Un peu de foi dans un grand Dieu. Donc, il ne s'agit pas de celui qui croit, mais il s'agit vraiment de celui en qui on croit. Pendant une grande partie de ma vie, je pensais que Jésus, quand il a repris ses disciples, ouais, il était comme quand il a chassé les voleurs dans le temple. Il disait, en fait, race incrédule, perverse, en fait, je ne veux pas le faire, mais j'avais l'impression qu'il était vraiment super fâché. Et puis, quand il expliquait à ses disciples en privé, mais enfin, si vous aviez la foi, comme, hein, mais qui devait être vraiment, comme s'il dit, mais vraiment, les gars, si vous aviez cette foi, vous pourriez le faire, quoi. Quand est-ce que vous allez apprendre ça, qu'est-ce que je vais faire avec une bande comme vous, quoi. Et j'imaginais ça, j'imaginais Jésus vraiment chaud, quoi. Et j'ai vu un jour dans un film Jésus, j'aime beaucoup regarder les films, parce que les films de Jésus, parce que j'utilise aussi ça comme des outils pour partager l'évangile. Et maintenant, on peut les mettre en plus sur des petites flash disques. Les gens dans les pays peuvent les mettre sur leur téléphone. Donc, c'est bien de savoir avant d'avoir vu. Et alors, un jour, dans un film, j'ai vu Jésus, ça m'a tellement touchée. Il est là. Tout à l'heure, je voyais les enfants. Ça me faisait penser à ça, parce que Jésus, il est là, il gratte la tête de ses disciples, comme ça, mais de façon très amicale, en souriant, comme en jouant, et il les encourage. Et c'est comme si on ressent, allez les gars, courage. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la foi comme une graine de moutarde. Juste un peu de foi à un grand Dieu. Et il va faire bouger cette montagne pour vous. Et j'ai réalisé, mais finalement, trop souvent, on a foi en notre foi. Ouais. Il ne s'agit pas de combien fort vous croyez, mais combien est fort le Dieu en qui on croit. Et alors, dans la mission, la vie missionnaire, et votre vie, elle n'est faite que d'une succession de petits et de grands actes d'obéissance. Et l'obéissance, elle est vraiment rattachée à ce repos de la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Matthieu 28, 20 ? Si la foi, elle est liée à la nature de mon Père céleste, elle ne peut que grandir. Et alors que je vais, mais vraiment, alors que vous allez aller, et que vous obéissez, vous allez être émerveillés de tout ce que Jésus veut faire au travers de vous, et votre foi va grandir. Et cet obstacle, dans Matthieu 17, que les disciples ont rencontré, en fait, ça a été, tu peux mettre la diapositive, elle a été une rampe de lancement. Là, ils ont appris quelque chose, les disciples. Et les 9 sont partis à nouveau pour une autre mission. Jésus les a renvoyés avec une plus grande foi. Et ils reviennent vers Jésus avec une joie en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis. » On voit ça un peu plus tard. Donc l'obstacle qu'ils ont rencontré a été pour eux une occasion d'examiner leurs pensées perverses, leurs pensées corrompues. Et avec un cœur dans le repos, dans la majesté de Dieu, la majesté de Jésus, ils sont partis, ils ont franchi des obstacles. Alors, ce que j'aimerais juste faire, avant de continuer pour partager une autre pensée, j'aimerais juste qu'on puisse se mettre devant Dieu et qu'on se dise, Seigneur, est-ce que moi, j'ai une pensée, j'utilise les mots de Jésus, hein, est-ce que je suis incrédule quant à la mission? Est-ce que j'ai une pensée pervertie, une pensée corrompue? Est-ce que je me reconnais dans ceux qui disent si souvent, pas maintenant, pas moi, ou pas ici? Ce sont des véritables forteresses, ces pensées. Et alors qu'on partage sur la mission et que je le fais souvent, tellement de fois, les gens me disent, non, ça c'est possible en Afrique, c'est possible en Asie, non, mais c'est pas possible ici. Si vous pensez ça, Jésus, vraiment, il nous dit, il me dit à moi aussi, parce que je suis en France, il dit, ça, c'est une pensée qui n'est pas celle d'en haut de la montagne. C'est la pensée corrompue, hein, du bas de la montagne. Et ce genre de pensée, je crois qu'aujourd'hui, simplement, si on veut voir un ADN missionnaire dans notre Église, pas juste une excroissance et que ça va être juste quelques spécialistes qui vont promouvoir la mission, mais si cet ADN missionnaire doit être là et c'est vraiment le cœur de Dieu, la mission, les nations de la terre, il faut que ces pensées incrédules, on y renonce. Donc juste, est-ce que je peux, j'aimerais juste prier par rapport à ça. Et si vous vous identifiez par rapport à ça, peut-être juste levez-vous et dites, on va y renoncer à ces pensées. Et chassez même les esprits qui sont derrière là. Hein. Ce n'est pas la plaisanterie. Hein. Il y a des esprits de cynisme, des esprits d'incrédulité dans nos vies et que Dieu veut, vraiment, Jésus veut chasser pour qu'on puisse aller et que le royaume qu'on voit là-haut sur la montagne, qu'on a vu ce matin, on l'expérimente vraiment en bas de la montagne. Donc si le Seigneur vous interpelle, juste levez-vous et je vais prier. Seigneur, on ne peut pas prendre à la légère ton dernier commandement. Quand tu nous dis, et tu nous le dis à tous, Jésus, d'aller et tout en allant, faites des disciples dans toutes les nations. Seigneur, c'est les paroles de celui qui est mort pour nous, pour nos péchés et pour les péchés du monde entier. C'est les paroles du roi de gloire. C'est les paroles de l'agneau de Dieu. Et autour de cet agneau de Dieu, on sait qu'il y a une multitude de peuples, de toutes langues, de toutes couleurs, de toutes nations, qui sont là en train de l'adorer, mais il y en a encore tellement qui attendent de recevoir cette bonne nouvelle, et tu veux nous utiliser, Seigneur. Tu veux que tous les peuples de la terre, et qui sont aussi ici dans notre pays, ils entendent ce message glorieux, et qu'ils échappent au jugement éternel. Seigneur, tu nous as choisis pour cela. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'aujourd'hui, on vient devant toi et on confesse nos pensées d'incrédulité. On te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où il y a un tel décalage entre ce qu'on vit en haut, sur la montagne, et ce qu'on vit dans notre réalité. Pardon, Seigneur, pour ces pensées perverses, ces pensées corrompues qui nous font dire que ce n'est pas maintenant, que ce n'est pas ici. Que ce n'est pas au travers de moi. Seigneur, je te demande pardon, vraiment, pour ces pensées-là, qui sont des obstacles. Pardon, Seigneur, pardon. Et Jésus, je veux renoncer à ces pensées. Et là où l'ennemi a pris des droits à cause de ces pensées répétées, de ces paroles répétées, parce que ces pensées aussi ont débordé avec des paroles, et on s'est lié peut-être avec nos paroles, et je détache les liens qui nous maintiennent captifs, qui nous gardent prisonniers, qui nous empêchent d'aller et de porter du fruit, d'aller et de libérer les captifs, d'aller et de guérir les cœurs brisés. Je détache ces liens maintenant au nom de Jésus, alors que l'on renonce à ces paroles qui nous ont liés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et si ces pensées ont été entretenues et des paroles n'ont été de cesse répétées, et peut-être avec certaines raisons, certaines blessures, et l'ennemi a voulu pénétrer, a gardé un droit dans vos vies. Je veux ordonner maintenant à ces esprits-là d'incrédulité, ces esprits de moquerie, de partir au nom de Jésus, de lâcher vos emprises et vous partez. Nous vous ordonnons de partir maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est plus votre place et nous voulons être vraiment un peuple qui va avec les promesses de Jésus. Tu nous as dit, Jésus, vraiment, que tout pouvoir, toute autorité nous a été donné. Tu nous as dit qu'on porte un message de gloire. Tu nous as dit que chacun, on a le ministère de la réconciliation. Alléluia. Nous voulons être tes ambassadeurs, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Amen. 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 Merci. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais terminer avec une pensée aussi. Vous savez, j'approche de la soixantaine. Et on dirait pas, hein, merci. Mais en fait, je réalise vraiment de. Il y a une chose que le Seigneur peut nous. On peut traverser beaucoup d'épreuves dans nos vies. Mais il y a une chose que vraiment, on peut nous voler beaucoup de choses. On peut nous meurtrir. Mais on ne peut pas nous voler notre relation avec Jésus. Et on ne peut pas nous voler non plus les expériences que l'on a vécues avec Jésus. Et on a besoin de modèles devant nous. Et notre grand modèle, c'est Jésus, c'est sûr. Et un deuxième modèle, en tant que missionnaire, je crois que c'est l'apôtre Paul. Et si on suit le modèle de Paul dans la mission, on va devoir suivre aussi son modèle dans notre attitude. Et alors que Paul allait de succès en succès, comment évolue son cœur? Je voulais juste terminer en citant quelques passages. Et tu peux le mettre? Voilà. Parce que quand le succès, les fruits seront là, quelle devrait être notre attitude? Paul, il disait à un moment donné, à présent, j'ai plus de champ d'action dans ces régions. Il parlait de toute l'Asie. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous. Paul, il avait, pas seulement, pas lui, mais les disciples qu'il avait formés, en fait, toute l'Asie était touchée par Jésus. Tous les peuples non atteints d'Asie étaient touchés. L'Asie mineure, pardon. Ouais. Et il vient de terminer deux voyages missionnaires. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Il vient de terminer deux voyages missionnaires et dans 6 provinces d'Asie mineure, il y a un mouvement de multiplication de disciples. Et au milieu de ces succès, Paul, il est attaqué par des leaders religieux qui dénigrent son ministère et qui élèvent d'autres au rang de super apôtres. Et devant un tel succès, quelle aurait été notre réponse? J'imagine. Ouais, quelle aurait été notre réponse? Comment est-ce qu'on se serait justifié et comparé aux autres? Qu'est-ce que Paul a fait? Paul, quand il se défend, il dit ça. Moi, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église. Et Paul démontre une humilité authentique tout au long de son ministère. Une humilité croissante dans la vie, c'est le fondement pour Dieu de faire de grandes choses. Et dans ce même chapitre de Corinthiens 15, où Paul se défend, mais il dit Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Ça fait des années que Paul y partage ce message. Des années. Et chaque année, il est de plus en plus émerveillé de ce que Jésus est mort pour les pécheurs, de ce salut totalement gratuit et qu'on ne mérite pas. Et c'est un message de la première importance. Combien de fois, alors que les années passent, on devient de moins en moins émerveillé de cet évangile et on devient tellement habitué à cette histoire qu'on ne sait même plus la raconter. Et elle perd son pouvoir pour nous laisser humbles. Le succès, ça peut amener à l'orgueil plutôt qu'à l'humilité. Et on peut en arriver à se dire quand même, je suis quand même spéciale. Hein? Et le succès de Paul, il ne venait pas des modèles qu'il avait. Il ne venait pas de kits de dons spirituels. Il ne venait pas d'une éthique de travail. Tout cela, ça y contribuait. Et Paul disait qu'il a travaillé plus dur que tous les autres apôtres. Mais dans la respiration suivante, il dit « Non, ce n'est pas moi qui ai travaillé, C'est la grâce de Dieu qui travaille en moi. Ouais. Et Paul était si reconnaissant de son salut qu'il a travaillé ardemment pour exprimer son amour à Dieu en étant le bon gérant de tout ce qu'il a reçu. Vous avez reçu des dons. Hein? Et le Seigneur veut qu'on travaille dur. Et on ne va pas voir de fruits sans travailler dur. Mais c'est la grâce de Dieu qui travaille en nous. Amen. Et Paul, il voulait voir des fruits. Il vivait pour ça. Il vivait pour voir les nations représentées devant son trône, devant le trône de Dieu. Il rêvait du salut de la multitude dans les nations. Mais il était sans cesse conscient de la grâce de Dieu pour lui et agissant en lui. Le verset suivant. En l'an 60, Paul écrit de prison. Il est en prison à Rome et il écrit aux Éphésiens. Donc c'est 6 ans plus tard après le verset précédent. Et il dit, maintenant, il se considère non plus comme le moindre des apôtres, mais comme le moindre des croyants. Oui, c'est à moi, le plus petit de tout ce qui lui appartient, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ. Alors que le temps passe, 6 ans, on aurait pu espérer que l'image de Paul sur lui-même, elle allait changer. Et alors que les années passent, Paul a une perspective de plus en plus grande de l'Évangile. Il est de plus en plus émerveillé de ce que cet Évangile, elle est pour tous les peuples. Et il explique ça dans Éphésiens. Et de plus en plus émerveillé que Dieu l'a choisi pour que tous les peuples reçoivent cette nouvelle vie. Il nous a choisis. Et c'est pour cela que Paul travaille. Et son ministère, le ministère de Paul, il découle de sa gratitude. Et 3 ans plus tard, presque à la fin de sa vie en fait, Paul, il n'est même plus le moindre des croyants. Il se présente comme l'exemple type des pécheurs. Et dans 1 Timothée, il dit « Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ô roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. » 3 ans plus tard, il n'est plus le moindre des pécheurs, il est l'exemple des pécheurs. C'est vraiment fort de penser ça. Parce que dans notre culture, où on s'étale sur l'importance de l'estime de soi, hein, Paul, il apparaîtrait en chute libre, vers une image destructive de lui-même. Et Paul, finalement, à la fin de sa vie, il est arrivé à une vraie image de lui-même. À la fin de sa vie, son émerveillement, il est à son paroxysme. Il n'a même plus de mots pour exprimer sa louange. Et dans notre verset de Timothée, chapitre 1, toujours, il dit « Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux, tel qu'il m'a été confié. » Le glorieux évangile du Dieu bienheureux. C'est comme s'il n'a plus de mots. Il est tellement émerveillé. Êtes-vous plus émerveillé de l'Évangile que vous l'étiez l'année dernière? Pourquoi Paul était si émerveillé? En fait, parce qu'il avait compris à quel point il était si méprisable. À quel point il était, il le décrit, à quel point il était blasphémateur, il était persécuteur, il était un homme violent. Il voyait son cœur purifié, sanctifié, mais toujours enclin au mal. Et pensez-y à un instant. On ne connaît pas le cœur des autres, mais on connaît notre cœur, hein? Enfin, en partie. Et vous savez comme c'est si facile d'être tenté de juger les autres, d'être critique. Et je crois que plus je vieillis, plus je vois les recoins de mon cœur, et plus je ne peux que m'émerveiller de cette grâce. Et je voulais juste terminer en disant, dans quelle direction vous allez? J'ai vu des ouvriers du royaume qui vont dans les dures directions alors qu'ils prennent de l'âge. On est tous en train de prendre de l'âge, de toute façon. Il y a des gens qui méprisent l'idée que nous venons à cette grâce désarmée et sans fin. Et alors qu'ils avancent, leur image de soi grandit, mais leur gratitude envers Dieu diminue. Et ils vont mettre l'accent sur les dons personnels, sur les méthodes. Et cela même peut conduire à des formes d'idolâtrie. Pas imaginer des mots, mais on peut dire des méthodolâtries ou des donolâtries, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais regardons l'apôtre Paul. C'est notre modèle comme missionnaire. Il était confiant jusqu'à la fin de sa vie, non plus en lui-même, mais vraiment dans la grâce de Dieu. Ce qui était important pour lui, c'était de s'abandonner. Et toute la croissance venait de Dieu. Et s'il y en a au milieu de nous qui ne connaissent pas encore ce grand Dieu, si merveilleux, qui a donné son fils unique, vraiment, il est mort sur la croix, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Il est ressuscité pour qu'aujourd'hui, on vive une vie nouvelle. C'est une grâce extraordinaire. J'ai ce que je ne méritais pas. Et ce que je méritais, je ne l'ai pas. Hein? C'est merveilleux. Alors, ce Dieu, vraiment, je vous encourage vraiment à chercher, à le découvrir, à lui confier votre vie. Je l'ai fait à l'âge de 18 ans et ma vie a instantanément changé. Donc, s'il y en a qui ne le connaissent pas, juste, j'aimerais prier et pour vous donner cette occasion de faire ce pas de foi pour le connaître. Et ceux qui le connaissent, vraiment, j'aimerais qu'on termine ce moment en disant, en refixant nos yeux sur la gloire, mais en bas de la montagne. Hein? On a le cœur vraiment là-haut dans la montagne, on voit sa gloire, on voit sa grâce, on n'a pas assez de mots, hein? Mais on vit dans cette réalité en étant en bas de la montagne. Et soyons toujours de ceux qui sont profondément reconnaissants pour le salut. Et on vient puiser tous les jours aux sources du salut. Mais on va terminer en priant. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore franchi peut-être la porte pour entrer dans la maison de Jésus, la maison de Jésus, ce n'est pas ici, hein. La maison de Jésus, c'est son cœur. C'est vivre tout près de lui, vivre en lui. Ben, je vous invite seulement à faire ce pas de foi, ce pas de confiance. La foi, c'est juste faire confiance. Donc, s'il y a l'un ou l'autre, ben, juste on peut prier. Seigneur, vous pouvez peut-être lever la main s'il y a quelqu'un. Oui. En tout cas, je ne vois personne, donc je vais juste prier pour nous. Seigneur, je veux vraiment, avec mes frères et sœurs, terminer ce temps en te disant merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Pour la grâce. Merci pour ce glorieux évangile, cette glorieuse bonne nouvelle qui est pour tous les peuples de la terre. Seigneur, on a un message qui nous humilie, un message qui fait qu'on ne peut qu'adorer, t'adorer toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu. Et Seigneur, Seigneur, on ne veut pas se focaliser sur nous-mêmes, sur notre propre croissance, sur tout ce qu'on est, mais on veut se focaliser sur toi, Seigneur Jésus. Et que cette grâce, comme disait Paul, elle puisse faire en nous au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Et Seigneur, alors que tu nous as parlé de Matthieu 28, on a une mission à accomplir. on ne peut pas l'accomplir par l'égalisme, mais on ne peut l'accomplir qu'en étant émerveillé jour après jour de ce message, de ce glorieux évangile, pour pouvoir le porter, franchir les obstacles avec toi. Aussi, Seigneur, je te prie encore que tu éclaires nos yeux, que les écailles tombent de nos yeux, pour que dans notre quotidien, on puisse voir notre Père céleste qui ne veut que répondre, et notre Père céleste qui nous envoie et qui veut nous utiliser. Et merci, Seigneur, parce que tu envoies chacune de mes amies, chacun de mes frères et sœurs dans cette semaine. Ton nom soit béni. Amen. Merci beaucoup.